comme j'annonçais dans mon introduction, là, je m'attends à vous parler de comment l'extension de ce modèle à plusieurs échelles simultanément permet de représenter le temps d'une façon délinéarisée et multi-échelle. Alors, le principe élémentaire du modèle système contraste et du modèle d'analogie, c'est la relation entre deux éléments. Donc un bipoint, c'est en fait un objet qui vit dans un espace de dimension 1, qui est la relation entre les deux éléments. Mais on passe déjà au modèle carré, comme je vous ai parlé jusqu'à présent, eh bien, on fait intervenir finalement implicitement deux échelles, puisque l'élément 1 est relié à l'élément 2, donc ce qui correspond à l'échelle de base à laquelle on décrit le processus dans sa globalité. Et puis, mais ça fait également intervenir une relation entre l'élément 1 et l'élément 3, et ça déjà c'est à l'échelle supérieure, puisque ça correspond à un sous-échantillonnage finalement du temps, donc on est passé à l'échelle supérieure. Et puis si on continue comme ça, eh bien, rien n'empêche d'essayer de décrire les relations d'analogie au sein de systèmes de 8 éléments, à ce moment-là en les plaçant sur un cube, c'est-à-dire en regardant la relation entre des éléments et d'autres éléments qui sont métriquement homologues dans la séquence de 8 objets musicaux. Et puis on peut continuer comme ça autant qu'on peut, c'est-à-dire si par exemple on fait intervenir 16 éléments, eh bien on peut les organiser selon un tesseract, et plus généralement, si on continue, on pourrait virtuellement monter jusqu'à un n cube. Alors ça c'est pour les segments parfaitement réguliers. Plus généralement encore, ça pourrait être carrément des polyèdres, c'est-à-dire des polygones en n dimensions, si on admet que certaines relations sont manquantes ou surnuméraires par rapport à la métrique la plus régulière possible. Bref, tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où on utilise donc ces systèmes de relations à plusieurs échelles, eh bien, je vais essayer de vous expliquer en quoi finalement ça donne une nouvelle représentation du temps, puisque ça nous permet de représenter les relations temporelles à plusieurs échelles simultanées. Donc ici, le nombre qui est en bas, c'est le nombre d'échelles qui sont modélisées simultanément. Donc, comment est-ce qu'on fait pour délinéariser ce matériau musical? Eh bien là, j'ai représenté une section musicale de 16, que j'ai découpée en 16 parties égales, pour simplifier, sa représentation linéaire, séquentielle. Et puis, si on commence à grouper les éléments voisins pour faire des petits systèmes de 4, eh bien, on a la représentation en Z du dessous, qui représente les groupes de 4 éléments. Et puis, eh bien, en fait, si on essaye de regarder ensuite comment ces groupes de 4 éléments eux-mêmes se relient les uns aux autres, eh bien, on fait une sorte de matrice de matrice, comme c'est représenté à droite du transparent, qui est équivalente en fait à la représentation de gauche. C'est juste un autre angle de vue du même objet, qui est donc un tesseract, et sur lequel eh bien, on voit apparaître finalement une hiérarchie des éléments les uns par rapport aux autres au fur et à mesure que l'on progresse de droite vers la gauche. Donc on est passé d'une structure séquentielle où l'objet observé est une chaîne d'éléments et qui est caractérisée par un unique index temporel et où les éléments sont reliés les uns aux autres dans un ordre total, c'est-à-dire que chaque élément a un et un seul prédécesseur et un et un seul successeur. On passe à une structure qui est une structure qui devient une structure multi-échelle et dans laquelle maintenant l'information est représentée sous forme d'un treillis. D'un point de vue mathématique, c'est un treillis, ça reste un tesseract sur la figure, mais c'est un treillis, et où la place d'un élément est déterminée par sa profondeur dans le treillis. Donc l'élément 0, c'est une profondeur 0, les éléments 1, 2, 4 et 8 sont profondeur 1, mais aux différentes échelles. Les éléments 3, 5, 6, 9, 10, 12 sont de profondeur 2 aux différentes échelles, et ainsi de suite. Et l'élément 15 reste celui qui est le plus profond de toute façon à toutes les échelles simultanées. Et donc on a remplacé l'index temporel par un indice de profondeur, et on a perdu la propriété d'ordre total au profit d'un ordre partiel, c'est-à-dire que les éléments entretiennent un ordre partiel les uns avec les autres, mais on garde une propriété de causalité, c'est-à-dire que tout élément sur une face donc qui forme un système dans cette structure, chaque élément qui est à la fin du système est toujours précédé par des éléments qui sont antérieurs dans le temps à lui. Par exemple, si je regarde l'élément 15, eh bien, il est, l'élément 15 c'est évident, mais l'élément par exemple 11, eh bien, tous les systèmes qui se terminent sur l'élément 11 sont constitués d'éléments qui sont antérieurs dans le temps à l'élément 11. Donc on peut construire les systèmes d'implication qui conduisent à l'élément 11 à partir d'éléments qui ont déjà été observés avant l'élément 11. Alors, un petit exemple illustratif, prenant l'exemple sonore qu'on a écouté tout à l'heure. Donc je vais vous faire écouter pour vous le rappeler, et je vais vous montrer comment cet élément se délinéarise sur le tesseract. Et bien donc on va faire la même chose, mais maintenant en parcourant le tesseract plutôt que l'axe temporel. Donc ici, les flèches vertes représentent la représentation du temps naturel sur ce tesseract, et vous avez vu apparaître au fur et à mesure les éléments musicaux qui correspondaient à ce déroulement des choses. Mais donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a finalement représenté notre objet musical sous forme d'un polyèdre sur lequel on a, pour un certain trajet, on retrouve l'ordre temporel, mais qu'on peut maintenant manipuler ou regarder sous d'autres angles ou sous d'autres systèmes de face, pour finalement compléter la vision qu'on en a par rapport à la simple échelle séquentielle. Bon, on peut faire la même chose pour des systèmes d'accords. Je vais revenir plutôt sur l'exemple qu'on vient de voir pour voir un peu ce qu'on peut en faire. Je ne vous fais pas écouter ça, mais si ça vous intéresse, on pourra y revenir pendant la séance de questions. Ce qui est intéressant donc, par rapport au tesseract, c'est que du fait qu'on est maintenant en dimension 4, eh bien, on peut regarder ce tesseract selon 6 angles possibles, en tout cas 6 approches possibles, selon le système de face que l'on choisit comme étant le principe d'organisation le plus pertinent pour représenter l'information. P0, c'est l'ordre naturel, c'est-à-dire qu'en fait, on va parcourir chacune des faces représentées en couleur successivement, dans l'ordre ABCD, ABCD, etc. Mais si on considère maintenant ce tesseract sous l'angle de la transformation P1, on va parcourir les faces dans un ordre temporel qui ne va plus être l'ordre naturel, puisqu'on va d'abord parcourir la première face qui va correspondre, donc, si je vois bien, à 0, 1, 4, 5, c'est-à-dire qu'on va parcourir la face qui est comme ça, et puis ensuite 2, 3, 6, 7, et puis ensuite 8, 9, 11, 13, et enfin 10, 11, 14, 16. Et donc ça va reconfigurer finalement l'ordre dans lequel on présente ou on aborde le matériau musical, tout en respectant la régularité des systèmes d'implication qui étaient dans l'extrait de départ. Simplement, c'est comme si on donnait une hiérarchie différente des échelles les unes par rapport aux autres. Plutôt d'aller de la plus petite à la plus grande, eh bien, on prend la plus petite, puis la plus grande, puis l'échelle intermédiaire pour expliquer le déroulement du morceau. Donc ça, en fait, ça revient à faire des permutations sur les index temporels, c'est-à-dire au lieu de lire les données dans l'ordre naturel 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., de les lire dans les ordres indiqués en dessous, qui correspondent en fait à des permutations de la séquence initiale, mais qui vont, ces permutations vont avoir la propriété de respecter les systèmes d'analogie à toutes les échelles, c'est-à-dire que ça ne va pas perturber les schémas d'implication qui étaient dans le morceau de départ, simplement ça va leur donner une hiérarchie différente dans l'écoute. Alors, je vais sauter ça pour ne pas perdre trop de temps. Ça aussi, hop. Alors, ça, je vais revenir dessus après. Excusez-moi, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter quelques variations polytopiques, c'est-à-dire des choses qui illustrent ce que je viens de dire. On prend une séquence musicale et puis on la rejoue en intervertissant de façon non quelconque les éléments musicaux qui la constituent, de sorte à maintenir les relations d'implication qui existent entre les éléments, mais en intervertissant les échelles. Donc ça, alors, je suis désolé, ça va être de la pop japonaise des années 90 en format MIDI. Donc ça ne va pas être quelque chose de super excitant d'un point de vue de la musicalité, mais c'est plutôt un proof of concept que je vous propose. C'est des expériences qu'on a faites donc, sur des bases de données, qui sont des bases de données expérimentales pour la recherche scientifique. Ça va vous permettre quand même de vous faire une idée de ce que c'est qu'une recomposition polytopique. Et j'espère surtout que ça va vous donner aussi l'envie de l'essayer sur des segments musicaux un peu plus sérieux pour voir vous-même dans vos expériences de création ou d'écoute ce que ça peut apporter. Mais donc, ceci étant dit, eh bien, nous allons subir un petit peu de musique pas très haut de gamme, mais ça va quand même nous donner une idée. Donc voilà l'original. Polytopique, donc ça c'est la variation 0 disons, et donc voici la suite des 5 variations polytopiques, donc ça c'est la partition, mais vous allez pouvoir les écouter dès que j'aurai appuyé sur ce bouton. On a utilisé exactement le même matériau, on l'a reconfiguré de façon assez sévère puisqu'il y a beaucoup de discontinuités maintenant par rapport à l'extrait original, mais néanmoins le fait d'avoir préservé les relations et l'hierarchie d'échelle, enfin d'avoir modifié l'hiérarchie d'échelle mais en préservant les relations d'origine entre les systèmes à ces différentes échelles, fournit dans ce cas-là en tout cas des exemples qui sont musicalement syntaxiquement correct d'un point de vue musical, c'est-à-dire par rapport à de la pop, ça le fait, ça ne crée pas d'aberration syntaxique par rapport à des extraits du même type. Juste pour vous faire écouter, on a aussi justement pour faire une expérience pour voir ce que ça donnait, si on faisait le même genre de mélange, mais sans respecter maintenant les propriétés du polytope, c'est-à-dire en faisant le même nombre de ruptures et le même nombre d'écarts entre les éléments, mais de façon aléatoire, en préservant le premier, en préservant le dernier, mais sans préserver les systèmes intermédiaires. Donc, il y en a 6, on va en écouter une ou deux parce que sinon on ne va plus en voir, mais ça va vous donner quand même l'idée que si on ne respecte pas ces propriétés, là on crée des flux musicaux qui sont beaucoup moins acceptables. Ça c'est un exemple où effectivement c'est encore les mêmes éléments mais ils ne sont pas organisés avec le même systématisme que l'extrait initial et on entend qu'effectivement il y a une organisation qui est moins familière, en tout cas moins conforme à ce qu'on peut attendre de la musique pop. On a d'ailleurs fait une évaluation préliminaire qui a consisté à tester justement sur 24 extraits MIDI de la même base de données et sur 22 sujets différentes variantes. Soit un original, soit 5 permutations régulières, soit 5 permutations aléatoires, et on a demandé au sujet d'évaluer la cohérence musicale. Chaque sujet n'entendait qu'un extrait d'une chanson, donc des fois il entendait un original, des fois il entendait une permutation régulière ou pas, mais jamais deux extraits issus de la même chanson de départ pour ne pas avoir d'effet d'habituation. Et on a demandé aux gens d'évaluer la cohérence musicale et on a mesuré la différence de score obtenue entre les permutations régulières et les permutations irrégulières. Et puis on a classé les sujets du score le plus faible au score le plus fort. Et on observe donc la symétrie de cette distribution tend à prouver que les sujets se rendent compte que quand la permutation préserve les systèmes d'implication, s'en rendent compte puisqu'ils jugent les extraits musicalement plus acceptables. On pourrait commenter même permutation par permutation ce que ça donne, mais j'ai pas le temps. Voilà. Je pense que j'ai déjà dépassé le temps qui m'incombe, donc je vais récapituler et conclure. Donc voilà, le propos que j'ai essayé d'étayer aujourd'hui, c'est que la musique est la présentation séquentielle d'une information qui est en fait multi-échelle, en tout cas dans les genres musicaux que j'ai étudiés, dans lesquels j'ai étudié. Les redondances de cette structure, de cette information, balisent la structure et jouent un peu le rôle de porteuse par rapport au déroulement de l'information. Et les irrégularités, elles, jouent le rôle de surprise, mais donc de signaux modulants et de délimiteurs. Donc ça, c'est une approche qui est un petit peu issue de la théorie des communications, mais qui est certainement utile pour revisiter les concepts que j'ai présentés. L'hétérogénéité du flux d'informations participe à la structuration du temps physique par l'alternance de systèmes d'implication logique et de surprise. Et il est particulièrement important de les maintenir si on veut garder dans les recompositions polytopiques qu'on a effectuées un sentiment de cohérence musicale des extraits. Voilà, donc pour l'instant c'était plutôt il n'y a pas de prod, c'est très difficile d'ailleurs, mais d'obtenir des preuves, mais on a un faisceau de résultats expérimentaux sur la musique pop qui étaye la consistance de ces hypothèses, et si je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment envie que ça soit exploré à un niveau transdisciplinaire, c'est-à-dire sortir un petit peu de cette approche légèrement ingénieur informatique, mais pour également voir au niveau de la composition musicale, de la musicologie, des sciences cognitives, en quoi on peut continuer à développer les fondements et les limites de ces méthodes. Et d'un point de vue pratique, ça fait un moment qu'on travaille dessus, et notamment mon collègue Valentin Gillot, ici présent, qui est au milieu de sa thèse, nous travaillons pour essayer de voir comment ces approches peuvent déboucher sur de nouveaux concepts d'analyse, de création d'écoute musicale, mais donc, comme je le disais, pas seulement sur le plan informatique, mais aussi sur le plan musicologique, parce qu'on pense que ça peut être la base de nouveaux outils pour la compréhension et la façon d'appréhender la musique. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions.
La question, oui, justement. En musique électroacoustique, je suis compositeur de musique électroacoustique.
Oui.
Il y a des choses qu'on retrouve, comme la gestion du temps,
oui.
Prendre par le col l'auditeur et le tenir jusqu'au bout de sa composition. C'est un souci permanent.
D'accord.
Hein, s'il lâche à moitié, s'il quitte la salle ou va faire une vacation quelconque. Alors il y a des éléments effectivement que j'ai retrouvés. Comme l'effet de surprise, mm-hmm. qui est en même temps l'effet de créer par la continuité des choses redondantes qui donnent dans le même temps une logique et donnent une chose qui donne une intelligence à l'objet fini, mm-hmm. la musique, le morceau composé. Voilà. Mais en même temps, c'est un peu délicat parce que nous on n'a pas de tempo. On n'a pas de rythme, on n'a pas c'est difficilement imaginable d'en faire ça en polygone ou en terme que je ne pratique pas. Hein? Voilà, il y a des choses. Vous avez déjà essayé autour de la musique électroacoustique
pas... Non, et puis moi je viens, je fais ce travail et je développe ces thèmes avec, comment dire, une méconnaissance complète en fait des pratiques et des principes de composition des différentes musiques et des différents genres musicaux, et notamment la musique électroacoustique. Donc bien sûr, il y a un côté naïf derrière cette vision des choses. Alors après, l'idée quand même de... je pense que les créateurs ont une vision quand même qui n'est pas linéaire de la façon dont ils composent leur œuvre. Donc c'est peut-être pas des polytopes aussi réguliers que ceux que j'ai pu présenter, mais l'idée de pouvoir finalement partir d'un contenu qui est manipulable non seulement dans sa dimension linéaire et dans son ordonnancement purement temporel, mais qui pourrait être aussi reconfigurable dans des dimensions de relations à distance, ça c'est peut-être quand même quelque chose qui peut être creusé pour les musiques électroacoustiques, les musiques non métriques, enfin je sais pas, je sais même pas en fait quel terme utiliser pour désigner ce type de musique, mais je pense qu'effectivement là il y a une hypothèse de structuration métrique de base, de régularité métrique qui est extrêmement importante et qui demande réflexion pour que cette hypothèse puisse être relâchée.
Oui, moi je ne suis pas du tout compositeur. Je travaille sur la perception auditive, donc à un niveau beaucoup plus élémentaire. Là, on est au niveau de la construction d'une œuvre. Donc la question que je me pose, c'est, bon, on comprend que pour un compositeur, c'est très important d'assurer une cohérence à l'œuvre. Mais donc la cohérence est nécessaire, mais est-ce que c'est vraiment au centre de ce qui rend la musique intéressante ? Est-ce qu'il suffit, l'essence de la musique, c'est quand même de créer des émotions, du plaisir, des choses comme ça. Et est-ce que ça peut provenir de structures comme celles que vous avez décrites ? Ou est-ce que c'est pas autre chose qui crée... Parce que, d'ailleurs, là, vous avez présenté donc ces variations autour de musique que vous avez décrites vous-même comme inintéressantes, triviales. Bon, ça marche très bien, les gens peuvent dire... Ça c'est cohérent, ça l'est moins, mais en fait on rejette tout, enfin on trouve tout inintéressant, même quand c'est cohérent.
Ah, on trouve inintéressant, je veux dire, l'extrait était pauvre à la fois en termes, enfin, c'était pas un extrait qui était extrêmement intéressant, mais il y a beaucoup de musique de consommation courante qui n'est guère plus élaborée que ce qu'on a pu écouter là.
C'est pas, peut-être de la musique qui n'est pas supposée attirer l'attention, juste créer un fond quoi.
Moi j'ai pas d'a priori en fait sur la fonction de la musique, c'est-à-dire que en fait je pense que c'est difficile de discerner finalement ce qui va intéresser ou pas un public à un moment donné par rapport à une écoute, et c'est moi ce qui m'intéresse plus c'est d'essayer de voir finalement, enfin la musique populaire c'est une musique qui perdure à travers les âges, qui est, même si elle prend des formes différentes, et ça veut dire qu'elle a quelque chose qui est facile d'appréhension pour facile à appréhender pour les auditeurs, une gamme large d'auditeurs. Et une hypothèse, c'est que c'est un juste équilibre entre redondance et nouveauté qui crée cet attrait pour ce type de public. Ce qui ne veut pas dire que des musiques plus sophistiquées, c'est pas mettre une échelle de valeur par rapport à la sophistication de la musique ou pas, mais c'est quand même un fait que la musique populaire, les comptines pour enfants, les musiques qui se propagent un petit peu comme ça, sont des fois des musiques qui sont pas extrêmement sophistiquées, mais qui ont un équilibre d'informations un petit peu qui serait intéressant de cerner. Quoi. C'est surtout pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, et pas tellement forcément
comment c'est construit.
Voilà.
Je peux donner quelques réponses.
On passe au concert.
Thank you.
J'essaye de faire le minimum d'informations. Passer pour plusieurs choses. Donc on va essayer d'enrichir. J'ai présenté deux sections. Donc, juste pour expliquer l'idée, j'organise mon instrument que j'appelle une partition de potentiel, de la même façon que ce que tu présentes. C'est que ça, il y a des éléments contrastants, il y a des éléments de continuité. Il y a des éléments qui sont interchangeables entre eux, il y a des éléments qui sont apportent de nouveautés. Ces nouveautés, ça permet d'être un pivot vers quelque chose d'autre chose. Donc, ce qui permet après. Donc, je pense que le principe de base de quantité d'informations et d'importance différente, d'échelle d'informations, ça va avec n'importe quelle musique. C'est dans l'improvisation, on a exactement le même système que dans la composition. C'est que je parlerai plutôt vers la composition instantanée, qui n'est pas la même chose que l'improvisation libre. Improvisation libre, là, on a dans une audition plutôt perceptive. Donc, on réagit au niveau de local, c'est dans l'échelle que tu montes à peu près. Dans la composition instantanée, on a une problématique de forme. C'est-à-dire que comment on donne une forme qu'on peut segmenter, qu'on peut comprendre, donc donner quelque chose de temps à lire et à comprendre pour l'auditeur.